RCF.
Bonjour à tous et à toutes. Et oui, de façon tout à fait exceptionnelle, ce n'est pas la voix de Thierry Lyonnais que vous entendez sous le générique de Visage. Voilà plus de 30 ans que Thierry Lyonnais nous fait rencontrer les plus belles personnalités de notre temps. 30 ans qu'il nous fait voyager à travers le monde, dans les contrées les plus reculées, les régions les plus mystérieuses. 30 ans que ses jambes, ses yeux et sa voix nous portent et nous transportent, dessinant pour nos oreilles les plus beaux paysages sonores. Alors la première fois que j'ai rencontré Thierry Lyonnais, je ne sais pas s'il s'en rappelle, c'était il y a peut-être 25 ans. Je venais d'être embauchée comme apprentie journaliste à RCF Saône-et-Loire et Thierry était venu à Mâcon pour former à l'interview toute l'équipe de cette petite radio qui a tant compté pour moi. Aujourd'hui, la boucle est bouclée puisque c'est moi qui interview Thierry Lyonnais pour sa dernière de Visage. Demain, Thierry part à la retraite, une page se tourne pour lui et pour RCF et nous allons ensemble remonter le fil de ses aventures radiophoniques. Bonjour Thierry Lyonnais.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Alors, on a décidé de se vouvoyer pour cette émission. Ça peut paraître un peu convenu, un peu artificiel, mais c'est l'esprit de cette radio. Respect, refus de l'entre-soi. Et ce vouvoiement crée, j'espère, un espace pour dans lequel l'auditeur peut se glisser. Alors, Thierry, comment est-ce qu'on commence une interview?
On essaye de trouver la bonne question qui va mettre à l'aise notre invité et en même temps qui va le mettre dans une situation où il n'a pas l'impression d'avoir déjà répondu 100 fois, 10 fois. Donc, vous parliez de formation aux techniques d'interview, je dis souvent aux élèves, entre guillemets, aux apprentis journalistes, pensez bien votre première question, elle ouvre et elle est très très importante, elle met en situation.
Alors Thierry, aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de la retraite?
Une immense gratitude. Je suis rempli de joie. On dit que RCF, la joie se partage. Je peux vous dire que vraiment, ouais, je suis rempli de gratitude. C'est le mot qui m'habite profondément, c'est gratitude. Parce qu'à l'intérieur de la gratitude, il y a bien sûr le mot de merci. Donc j'ai tellement de merci à donner à toutes les personnes que j'ai rencontrées, aux collègues de travail, et puis aux auditeurs. Et puis il y a de la joie. Il y a vraiment de la joie. Parce que quand je relis, c'est, vous êtes gentil, vous dites 30 ans, c'est même 35 ans, puisque j'ai commencé à travailler à RCF en 1990. Donc ça fait 35 ans. Et ça a été 35 ans de joie. Alors, bien sûr, comme toujours, faut pas idéaliser dans une vie professionnelle. Il y a eu des moments de stress, de débats, de parfois de tensions. Mais globalement, quand je relis, que de la gratitude.
Thierry, on va parler de la genèse. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu être journaliste.
Ouais.
Et vous, je crois que ce n'est pas le cas.
Pas du tout. J'ai jamais pensé être journaliste. J'aimais bien, enfant, écouter de la radio. Dans mon lit, sous l'oreiller, j'avais toujours une petite radio. J'écoutais, mais je n'ai jamais rêvé de devenir journaliste, comme beaucoup d'entre vous. Non, moi, je voulais voyager. Je veux dire, le cœur du cœur de ce que je suis, c'est le petit garçon de 7 ans. Qui, un jour, voit son institutrice prendre une pomme et nous dire « Voyez, cette pomme, c'est comme la terre. Là, c'est la France, vous traversez, vous arrivez de l'autre côté du monde, et là, c'est Wallis et Futuna, les îles de Wallis et Futuna. » Elle nous parlait des missionnaires, j'étais chez les maristes, et là, je me suis dit « Je veux aller à Wallis et Futuna. »
Et vous avez été à Wallis et Futuna.
Et je suis allé en reportage, grâce à RCF, à l'autre bout du monde, faire des reportages à Wallis et Futuna. Mais tout a démarré là. Cette institutrice, bien plus tard, il y a 2 ans, je l'ai appelée, je l'ai remerciée, et je lui ai dit « Vous m'avez mis en route. » Et tout est parti de là. Le goût du voyage, le goût de l'ailleurs, de la rencontre est parti de là.
Alors, vous êtes devenu journaliste sur le tard. Je crois que vous aviez 30 ans quand vous avez rencontré RCF. Auparavant, vous avez mené une vie incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Vous avez fait un très, très long voyage pendant 7 ans, un tour du monde pendant 7 ans. Qu'est-ce que ce voyage a fait de vous?
Alors, ça a été le voyage initiatique. En fait, en relisant, je prends le temps là de relire un peu ma vie. Et en fait, le journaliste que je suis devenu doit tout à ces 7 années de voyage entre l'âge de 18 ans et l'âge de 25 ans. À 18 ans, mon père, comme tous les pères, les bons pères, me dit « passe ton bac, bien sûr tu veux voyager, mais passe ton bac d'abord ». Et lui projetait que je fasse de grandes études, il rêvait que je fasse Sciences Po, HEC, ou que je prenne la succession, il est entrepreneur de travaux publics. Et moi non, j'avais ce goût du voyage, ce désir du voyage. Depuis l'âge de 12 ans, je faisais des économies pour partir voyager. Et après mon bac, je suis parti à Sri Lanka. J'ai passé 2 mois, je devais rentrer faire de la sociologie et de l'ethnologie à l'université. Et Sri Lanka a été ma découverte de l'Asie et ça a été un véritable coup de foudre. Alors je ne vais pas développer, mais à partir de ce moment-là, je me souviens, un soir, en regardant le soleil se coucher à Ikaduwa, je me suis dit, je vais passer ma vie à voyager. Et à partir de là, c'est parti, j'ai voyagé, j'ai fait...
Mais ça veut dire quoi, voyager ?
Voyager, c'était d'abord le goût de l'aventure. Je rêvais de mettre mes pas dans les pas de Joseph Kessel, de Michel Pessel dans l'Himalaya. J'avais lu, j'avais énormément lu déjà, et je rêvais de vivre l'aventure. C'était pas du tout une quête spirituelle, c'était d'abord vivre l'aventure. Je voulais apprendre à monter à cheval en Afghanistan. Malheureusement, je suis arrivé 2 mois avant l'invasion soviétique, et mon étape en Afghanistan a été très courte, puisque j'ai pu y rester 15 jours, dont 5 jours en prison, arrêté pour espionnage et expulsé d'Afghanistan. J'ai eu la chance de survivre, de ne pas être tué du temps d'Amin. Je voulais pénétrer au Mustang interdit dans l'Himalaya. J'ai essayé, je me suis fait refouler par l'armée parce que il y avait les guerriers Kampa qui luttaient au Tibet. Donc j'ai vécu des choses très...
On apprend l'échec aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. L'échec est indispensable dans l'existence. Puis j'ai surtout appris très vite la fragilité de la vie. J'ai vu la mort de près. J'ai failli mourir. J'ai vu des gens mourir. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Puis j'ai fait des rencontres énormes dans l'Himalaya. J'ai rencontré des lamas tibétains.
Je sens qu'on va s'élever spirituellement, mais ouais. Je voudrais revenir au concret.
Ouais.
Comment on fait quand on a 18 ans et j'imagine que vous ne rouliez pas sur l'or pour financer tout ça?
Non. Je vivais avec très, très peu d'argent. En Inde, j'ai traversé l'Inde en vélo, avec un vélo indien. Je dépensais $1 par jour. Donc, je rentrais, par exemple, en Suisse. Je faisais les vendanges en Suisse. Et là, je gagnais pas mal d'argent. Gagne bien d'argent en Suisse. J'ai été marchand de tapis au Maroc. J'achetais des tapis berbères que je revendais en France, en Suisse. J'ai fait du commerce d'antiquités. Alors, pas à la Malraux, hein. J'ai pas pillé des temples. Mais j'achetais des antiquités. J'aimais ça et je les ramenais en Europe. Je les vendais. Et j'étais toujours autonome en vivant très, très simplement. Donc, j'ai jamais eu de problème d'argent. Et quand j'avais, je sais pas, l'équivalent aujourd'hui de 3000 euros, j'étais très riche et je partais un an vivre dans des pays où le coût de la vie était très bas. J'ai pas fait le tour du monde, comme vous dites, je partais pas aux États-Unis ou en Australie. Je suis beaucoup resté en Asie, au Proche-Orient et en Afrique du Nord.
Visage RCF.
Donc au début, c'est le goût de l'aventure,
oui.
Et petit à petit, le voyage vous a transformé, et il y a eu peut-être une quête spirituelle.
Oui, la quête spirituelle est arrivée un jour très précisément. J'étais au Népal, je marchais avec un ami tibétain, et j'ai vu un sadhu, ce qu'on appelle un sadhu, c'est-à-dire un renonçant, un homme qui marchait avec juste un cache-sexe, un petit pot à eau, une couverture sur l'épaule, 3 pommes de terre. Et rien d'autre, on était à 3000 mètres d'altitude, et il allait à Muktinath, un lieu de pèlerinage à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc, il s'est installé en aval de nous pour faire cuire ses pommes de terre en ramassant quelques brindilles avec un silex en essayant d'allumer son feu. Donc moi, je me suis approché, je lui ai allumé son feu. Il nous a fait signe de nous asseoir. Il nous a offert à chacun une pomme de terre. Un homme qui n'avait rien, il nous offrait tout. On a discuté avec lui. Et là, j'ai appris qu'il avait été commerçant, marié et qu'il vivait ce qu'on appelle 4e ashrama. Il était parti sur les routes comme un renonçant. Voilà. Et là, il m'a regardé dans les yeux, au bout d'un moment, et il me dit « Viens, suis-moi ». Et là, j'avais 20 ans, plein de rêves dans la tête, je lui ai dit non. Mais cet homme-là, un peu comme mon institutrice, cet homme-là m'a mis en route sur une vraie quête spirituelle. Il était libre. D'où venait cette liberté? Moi, je l'avais pas, cette liberté. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus sur l'hindouisme. Et je me suis mis à étudier l'hindouisme sérieusement, en vivant dans les ashrams. Je suis parti dans l'Himalaya, j'ai rencontré des lamas tibétains. J'ai étudié le bouddhisme, parce qu'on parlait pas de Dieu. Voilà. Un long chemin.
Et votre façon de voyager en était complètement transformée.
Complètement transformée. Je cherchais plus le risque, l'aventure, au sens fort des émotions, de l'adrénaline. Je me suis mis vraiment de plus en plus à mener une quête spirituelle. qui m'a conduit dans un petit ashram. Ashram, c'est un lieu communautaire dans le sud de l'Inde, le Tamil Nadu, et un ashram fondé par un prêtre lyonnais, le père Monchanin, rejoint par le père Le Sceau, un moine bénédictin, et ils vivaient comme des hindous, en culture hindoue, tout en étant chrétien, en restant profondément chrétien. Et c'est des hommes du dialogue interreligieux. Et j'ai vécu 6 mois dans leur ashram avec Father Bill Griffith, un bénédictin anglais, qui m'a fait découvrir en même temps les textes sacrés de l'hindouisme qu'il connaissait très très bien. Et puis j'ai découvert la mystique chrétienne, l'évangile de Saint Jean, Maître Eckhart, Ruysbroeck, et surtout la figure du Christ qui n'a plus cessé de me quitter.
C'est-à-dire que la figure du Christ, vous l'avez découvert en Asie.
Je l'ai redécouverte en Asie. J'avais eu un vernis de culture catholique jusqu'à l'âge de 12 ans, puis j'avais tout envoyé balader. Et là, j'ai vraiment redécouvert le mystère de Jésus-Christ. Je dis toujours ça, le mystère de Jésus-Christ. La voie, comme dit François Cheng, je me suis mis sur la voie de Jésus-Christ. J'essaye de suivre ce personnage qui est bouleversant de grandeur et de mystère. Et tout est parti de là.
Alors, 7 ans à voyager avec une croissance spirituelle pendant ce voyage, et vous revenez, et puis finalement vous repartez, cette fois-ci vous partez en Terre Sainte.
Oui, parce que ce questionnement que je menais sur la quête spirituelle en Orient, j'ai voulu la mener en France, donc je suis allé frapper aux portes des monastères, demander « mais qui est Jésus pour vous ?» J'hésitais pas, hein, j'allais à la Grande Chartreuse, j'allais dans les monastères cisterciens comme Tamier, et puis on me donnait des réponses intellectuelles, mais il a fallu une nuit de feu, une nuit à la Pascale, ce qui m'est arrivé, et le 2 juin 1984, à 19h30, j'ai été saisi.
Thierry, ça va ?
Ça va. J'ai été saisi par l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça.
Ben merci. Moi, je suis bouleversée parce que je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel ?
C'est ce qui est au cœur de chacun d'entre nous, que nous cherchons tous, que tout homme, toute femme recherche, qui est le sens de la vie, en fait. L'abbé Pierre me l'a dit un jour dans une interview, je lui disais, mais quel est le sens de la vie ? Il me dit, c'est d'apprendre à aimer. Nous ne savons pas aimer, mais nous devons apprendre à aimer. Et cet amour inconditionnel, c'est ça. Et nous le cherchons tous. Tous.
Et vous partez à Jérusalem ?
Je pars sur les traces.
Vous avez besoin de mettre vos pieds dans les pas de Jésus.
De Jésus. Ouais, j'ai besoin de comprendre qui il est. Pourquoi il a vécu là? Pourquoi il est venu là il y a 2000 ans? Et donc, je pars là-bas et ça a été un long pèlerinage. Ça a duré 14 mois. J'ai vécu 7 mois en Israël-Palestine, en milieu juif, en milieu orthodoxe. J'ai été dans des monastères à Latroun. J'ai été avec des orthodoxes près de Bethléem, dans le désert. Et là, je continuais cette quête. Voilà.
Moi, j'ai jamais été en Terre Sainte. Ouais. Ça change vraiment quelque chose à la fois d'être là-bas?
C'est ce qu'on appelle l'incarnation, c'est comprendre que Jésus s'est fait homme et donc il est venu dans une histoire, il est venu sur une terre, il est venu dans un peuple. Et j'ai pas aimé les lieux saints, soyons clairs, ça m'a pas bouleversé, le Saint-Sépulcre, Bethléem, non, il y a trop de marchands du temple encore aujourd'hui. Non, moi j'ai aimé le bord du lac de Tibériade, voilà, à Tabga, juste là, au bord du lac, là où il est venu. Voir le même paysage que lui, ça m'a rapproché de lui.
Thierry, c'était il y a combien de temps ?
Là, c'était vers 1985, 84, 85. Oui.
Cette nuit dont vous venez nous parler, ce voyage sur les traces de Jésus, c'est encore vif.
Ah ben, je suis habité par ça, oui. Ouais. Ça m'a habité, ça m'habitera toute ma vie. Ouais.
Vous en parlez souvent ?
Non.
Pourquoi ?
C'est difficilement partageable. Voilà. On essaye de mettre des mots, mais c'est un peu comme les gens qui ont fait des expériences de mort imminente que j'ai interviewées. Vous sortez d'une dimension qui est celle que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Vous voyez, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « la grenouille au fond du puits ne connaît rien de la haute mer ». Ouais. En fait, nous sommes comme des petites grenouilles au fond d'un puits, dans notre condition humaine. Et quand on vit cette nuit de feu, quand on vit une expérience de mort imminente, oui, on sort du puits, on se retrouve sur la margelle et on découvre que l'existence, le monde est beaucoup plus large. Voilà. Mais après, essayer de mettre des mots là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas trop, c'est pas facile.
Il y a un romancier que vous avez interviewé, oui, qui a vécu cette expérience, Eric Emmanuel Schmitt. Vous l'avez interviewé plusieurs fois.
Oui.
Vous en aviez parlé avec lui? Parce qu'il a vécu une expérience
comme
ça.
Mais bien sûr, on en avait parlé la première fois qu'on s'est rencontrés il y a 30 ans. Et il m'avait dit, on avait fait une première interview, il était beaucoup moins connu que maintenant. On avait été manger ensemble. Il m'avait parlé de ça. Moi, je lui avais parlé de mon expérience, il m'avait parlé de la sienne. Et il m'avait dit, mais il faudrait que je l'écrive un jour. Mais c'est dur. Tu sais que c'est dur. J'ai dit oui, c'est dur de mettre les mots. Et plus de 20 ans après, je crois, 20 ans, 25 ans après, il a écrit et je l'ai interviewé là-dessus. Et ça a été très émouvant d'essayer de lui permettre de mettre des mots sur cette expérience de feu qu'il a vécue.
Et vous vous êtes reconnu dans les mots qu'il a posés sur cette expérience?
Oui, oui. On se retrouve, il y a quelque chose d'universel dans cette expérience-là.
Finalement, vous n'êtes pas si rare à avoir vécu cette expérience.
Mais heureusement, et j'aimerais qu'on soit plus nombreux à goûter de cette goutte d'amour que Dieu donne parfois. Pourquoi pas à des êtres parce qu'ils sont meilleurs, hein. Je pense pas qu'Éric, Emmanuel ou moi, on soit des êtres exceptionnels. On est peut-être des êtres en quête. Je crois que c'est ça. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Il faut être en quête.
Vous êtes disponible?
Oui, oui. Il faut être ouvert. Moi, j'ai consacré ma vie à ça. Durant ce voyage initiatique, j'ai consacré ma vie à ça. J'ai mis ma vie en danger face à ce qui est raisonnable dans les choix de vie. Mais je ne regrette pas.
Mais finalement, quand on vit une expérience spirituelle aussi forte,
oui,
et vous étiez un tout jeune homme, vous n'aviez pas 30 ans.
Non, j'avais 24 ans. Ouais.
Voilà, quand on vit une expérience spirituelle aussi forte, comment est-ce que la vie peut avoir encore du goût après?
Elle a du goût parce que cette expérience-là nous fait comprendre la beauté du monde et aussi la beauté des êtres humains. Loin d'avoir envie de tout quitter pour passer sur l'autre rive, comme on dit, on a envie de s'émerveiller davantage sur la beauté du monde et de percevoir dans ce monde-là tout ce qu'il a de beau. On ne devient pas un ange, on n'est pas transformé d'un coup de baguette magique, on garde ses limites, ses faiblesses, ses blessures. Mais il y a quelque chose, un je ne sais quoi, qui n'est plus jamais le même. Et on n'aborde plus la mort de la même manière, la grande peur.
Pourquoi la mort?
Parce que c'est la grande peur. C'est ce qui nous empêche de vivre tellement de choses. On a peur. L'humain a peur. Si l'humain a peur de l'autre étranger, de l'autre différent, c'est parce qu'on a peur in fine de la mort.
Alors, vous êtes un tout jeune homme,
oui,
vous vivez cette expérience aussi puissante,
oui,
et là, j'imagine que vous vous dites, mais je vais être prêtre.
Bah oui, oui, je me suis imaginé que j'allais être moine d'abord. J'avais une hiérarchie. Pour moi, les purs, c'était les moines. Après, en dessous, il y avait les prêtres. Et puis alors, vraiment, tout en bas, il y avait les laïcs. Et Dieu est un bon pédagogue. Donc, je suis rentré dans une communauté qui s'appelle la communauté du chemin neuf de spiritualité ignatienne. Et là, j'ai appris la vie communautaire, moi qui étais un voyageur solitaire. Et donc, j'ai appris à aller nettoyer les WC des autres dans une maison communautaire.
C'est pas fait pour vous ?
Ah, ben, si, ça fait descendre, ça fait atterrir. Et puis, j'ai appris l'accompagnement spirituel. J'ai été accompagné, j'ai appris moi-même à accompagner. J'ai repris des études de théologie, de philosophie. Puis, j'ai compris que c'était pas ma vocation. Qu'en fait, j'étais appelé à être tout simplement un homme, point, un petit homme, là, et à vivre spirituellement là où j'étais, comme un homme, point, barre, rien de plus.
Et ensuite, vous avez rencontré votre épouse?
Ah, ça a été bien plus tard.
Bien plus tard.
Bien plus tard. J'ai d'abord rencontré la radio. Et ça a été ça d'abord. Ça a été le père Payen qui me connaissait dans la communauté du Chemin Neuf. Le père Payen était le fondateur de ce qu'on appelait Radio Fourvière à l'époque. Et le père Payen m'a proposé de venir faire des émissions sur l'art et la foi, l'art sacré. Il savait que j'aimais la culture, que j'avais un peu de connaissances bibliques. Et il me dit, ben écoute, nous, on aimerait que quelqu'un fasse des émissions sur l'art sacré. Et je lui dis, attends, je n'ai jamais fait de radio. Écoute, tu viens, 6 mois, on te prend à l'essai, on te forme, 6 mois, non rémunéré, du bénévolat à l'époque, hein, 6 mois. Et puis, si tu fais l'affaire, on t'embauche. Et si tu aimes ça, ben, on t'embauche, sinon ben, on se séparera.
Donc vous n'aviez pas fait d'école de journalisme, mais votre école de journalisme à vous, c'était les voyages? C'est les voyages qui vous ont formé?
Mais ça a été la vie. La meilleure école, c'est la vie. Ça a été les voyages qui m'ont ouvert et préparé à devenir grand reporter et à être envoyé n'importe où, aux quatre coins du monde et à m'adapter. J'avais appris à m'adapter, j'avais appris à survivre, j'avais appris à ouvrir mes radars pour savoir avec qui je restais, avec qui je restais pas, pour essayer de comprendre vite les coutumes. J'ai tout appris du reportage par le voyage. J'ai appris dans l'accompagnement spirituel au sein du chemin neuf à écouter, mais écouter finement, en profondeur, laisser parler, puis poser des questions pour aller un peu plus loin. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Ça a été mon école.
Et puis vous aviez marché, vous avez appris à marcher. En ce moment, on découvre un podcast, la deuxième saison de votre podcast, c'est Marche et Rêve.
Ouais.
La marche, c'est essentiel pour vous?
C'est essentiel. J'ai toujours aimé marcher. J'ai marché dans l'Himalaya très tôt, 21 jours à la suite, dans les montagnes de l'Himalaya. J'ai adoré ça. J'aime le rythme de la marche. C'est le rythme sain. Nous sommes, nous, sapiens des marcheurs. Et quand on marche, se déclenche quelque chose en nous, au niveau de la respiration, au niveau de l'ouverture intérieure, puis au niveau de l'agitation mentale. On est dans une autre dimension quand on marche. Quand on marche au long cours et quand on marche en solitaire. Moi, j'aime marcher seul, en silence. Et là, il se passe beaucoup de choses intérieurement. J'aime la marche. Et là, je vais partir marcher dès septembre. Dès que mon épouse commencera ses cours, puisqu'elle est professeure et pas encore à la retraite, je partirai sur les chemins de Compostelle.
Et le micro, vous avez aimé? Tout de suite?
J'ai aimé tout de suite, très vite, la rencontre avec l'autre, l'interview. Et puis très vite, j'ai vu les possibilités infinies de la radio, la beauté de la voix nue. On n'est pas distrait par l'aspect physique de son invité, comme à la télé. C'est la voix nue, la voix pure. J'ai aimé les émotions qu'on peut sentir dans une interview radio, les silences qui sont porteurs. Donc j'ai tout de suite aimé. Puis après, j'ai découvert le terrain. Prendre mon micro, aller sur le terrain, sortir. Et ça, c'est l'art et la foi. J'ai commencé comme ça. On va pas parler d'art roman ou de cathédrale gothique en restant enfermé dans un studio. Donc, j'allais sur place. J'allais à Chartres, j'allais au monastère de Lérins. Et puis après, partir de plus en plus loin, monter des grands reportages, des grands projets.
Thierry, je crois qu'il y a une habitude dans cette émission, c'est d'écouter aussi de la musique.
Oui.
Et je crois que vous êtes un amateur de musique. Qu'est-ce que la musique représente dans votre vie?
Ah, j'aime énormément la musique, toutes les musiques du monde. J'aime énormément écouter la musique, parce que là aussi, quand on l'écoute en profondeur, quand on se laisse habiter par la musique, en ne pensant pas à autre chose, en essayant de ne pas penser à autre chose, on est transformé par la musique. Il y a des musiques qui vous rejoignent au cœur intensément. Et donc, j'ai toujours essayé dans les interviews, je mets les musiques après. Un secret de fabrication de visage. Je choisis les musiques après, en résonance avec ce que l'on dit, avec mon invité, avec son histoire, sa personnalité.
Et là, on écoute quoi?
Ah ben là, vous m'avez demandé de choisir des musiques qui collent à mon histoire. Et là, j'ai choisi de la flûte indienne. J'aime beaucoup la flûte comme instrument. Je trouve que c'est un des instruments les plus mystiques. C'est le souffle qui passe à travers un bambou, par exemple. J'aime tous les sons de flûte, le shakuhachi japonais, le ney des derviches tourneurs de Turquie. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la flûte de bambou indienne. Donc là, je vous propose d'écouter un extrait d'un raga, musique classique indienne, Raga Durga, de Hari Prasad Chaurasia, qui est l'un des plus grands flûtistes indiens. Thank you.
On se retrouve dans cette émission Visage, toujours en compagnie exceptionnellement de Thierry Lyonnais. Merci Thierry d'être avec nous. Où est-ce qu'on est Thierry? On ne l'a pas encore dit.
Alors on est dans cette magnifique bibliothèque des Missions étrangères de Paris, rue du Bac. C'est un lieu que j'ai découvert il y a plus d'une quinzaine d'années en venant interviewer le père Ponchot, un prêtre des Missions étrangères de Paris, un être incroyable, passionné par le Cambodge. Et c'est celui qui a fermé l'ambassade de France à Phnom Penh au moment de l'invasion de Phnom Penh par les Khmers rouges. Il était un des derniers et il parlait le Khmer. Et vous avez peut-être vu le film Le Portail. C'est lui qui, avec un ethnologue, sont restés les derniers et ont fermé l'ambassade de France de Phnom Penh. Et je suis venu l'interviewer, j'ai découvert cet endroit. Et j'ai demandé, mais est-ce que vous croyez que je pourrais revenir? Ils m'ont dit oui. Et j'ai développé tout un lien d'amitié. Les Missions étrangères de Paris sont des prêtres envoyés en Asie à vie. Donc vous connaissez mon prisme asiatique maintenant. Et donc j'ai développé un lien d'amitié avec eux. J'ai fait des reportages sur les MEP dans différents pays d'Asie. Et donc j'interviewe dans cette bibliothèque.
Vous la décriviez pour les auditeurs,
oh là
parce
là
que c'est
là
un endroit absolument
pas,
fabuleux.
C'est entre Au nom de la rose et Harry Potter. C'est là le mur que j'ai en face. Alors on va le dire, je mets toujours ce mur rempli de livres anciens. Il y a des livres polyglottes de traduction de la Bible du XVIIe siècle, des couvertures en cuir. On sent l'odeur du papier, du cuir ici. Il y a deux statues de Bouddha qui sont là. Bibliothèque tout en bois, bien sûr. On est dans un autre univers. Et en fait, quand j'ai découvert cet endroit, je me suis dit, mais les hommes et les femmes que je vais recevoir ici pour Visage seront autrement que dans un studio radio. Ils vont se livrer davantage. Et quand Bernard Pivot est venu, là, assis sur le siège où je suis, à ma place, puisque vous avez pris la mienne, Bernard Pivot m'a dit, mais vous avez tout à fait raison d'interviewer dans les bibliothèques. Les bibliothèques portent à la confidence. Alors, je lui dis, vous me parlez par expérience? Il me dit, écoutez, à la fois non, parce que quand je faisais apostrophe, nous étions dans un studio télé, mais dès que j'interviewais longuement Marguerite Yourcenar, Solzhenitsyn, je les interviewais dans leur bibliothèque. Ils n'étaient pas les mêmes. Voilà. Et donc j'ai interviewé des centaines de personnes ici, là, sur le siège où je suis. Se sont succédés Barbara Hendricks, Amélie Nothomb, Bernard Pivot. Enfin, la liste serait tellement longue.
Alors vous avez un petit rituel avant d'aller dans la bibliothèque.
Oui.
On l'a fait
ensemble.
On passe par le jardin.
Oui, il y a un très très beau jardin privé des Missions étrangères de Paris. Et donc, quand mes invités arrivent, je les emmène marcher dans ce jardin. Pour faire un peu connaissance, et puis surtout pour les faire redescendre du stress ambiant de Paris. Et donc on marche au milieu des fleurs, au milieu des arbres, pas très longtemps, mais on fait un petit tour, et ça les aide à redescendre un peu. Puis alors ensuite, quand on arrive ici, et qu'ils rentrent dans le silence de cette bibliothèque, qu'ils voient le lieu, ils sont autrement, dans une autre disposition. Et puis pour tout dire, en fait, cette bibliothèque est construite au-dessus de la grande chapelle des MEP. Et donc, il y a presque 4 siècles de prières, là, en dessous, qui remontent.
Thierry Lyonnais, Visage, c'est 25 ans. Mm-hmm. 25 ans d'interview, à raison de 4 par mois, 10 mois par an. Ça,
ouais.
Je n'ai pas calculé, vous avez peut-être dû le faire.
Au total, j'ai réalisé à peu près 1000 interviews de Visage.
1000 interviews. Est-ce qu'il y a un fil qui relie toutes les personnes que vous avez invitées? Comment vous choisissez vos invités?
En fait, j'ai choisi le titre de visage avec un S parce que chaque visage est unique. Ce qui m'a frappé dans le monde, c'est qu'il n'y a pas 2 visages identiques, même des jumeaux. Chaque visage est unique. Et en fait, chaque personne humaine est unique. Et ce que j'aime... Ce que les voyages m'ont enseigné, c'est la richesse de la différence, la richesse de la diversité. Et donc, mon critère, c'était de choisir des hommes et des femmes, tous différents, et ayant surtout vécu des expériences de vie belles. Donc, je choisissais pas par la notoriété, je choisissais par ce qui me semblait être une possibilité de vivre une heure de tête-à-tête avec une personne qui a une belle expérience de vie à nous partager. C'est ça, mon critère. Donc, j'ai pu interviewer des gens très connus, comme je vous disais, comme, je sais pas, Jean d'Ormesson ou Barbara Hendricks.
L'abbé Pierre.
Ou l'abbé Pierre, ou Sœur Emmanuelle. Et puis, des gens pas du tout connus, une jeune bergère dans son alpage, un jardinier à Dieu le fit, mais des gens qui avaient un beau parcours, vraiment, j'insiste là-dessus, une expérience de vie qui les a façonnés. Et ce que je voulais, c'était recueillir ça, ces expériences qui les avaient transformés et qu'ils pouvaient nous partager. Et ce que j'ai compris, c'est que quand une personne vous partage en vérité, en profondeur, elle rejoint l'universel. Elle nous parle à tous.
Et vous, votre rôle dans l'entretien, comment vous le considérez? Vous êtes un accoucheur? Vous êtes un...
Oui, je crois que vous avez dit le mot. Il y a une dimension d'accouchement, au sens de la maïeutique. Me mettre à l'écoute. Je pense que le critère numéro un d'une véritable interview, telle que je l'entends, c'est-à-dire lors d'une vraie rencontre, c'est écouter. Écouter. Ce mot, il est fondamental. Écouter. Écouter l'autre pour entendre ce qui est dit, mais aussi ce qui peut être dit encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin.
Il y a des gens très célèbres que vous avez reçus, des gens avec des postes très importants, beaucoup de pouvoir dans leurs mains, des gens avec énormément de sagesse.
Oui.
Comment on fait pour se tenir face à eux? Parce que j'imagine qu'à chaque fois, il y a beaucoup de respect, vous êtes impressionné. Est-ce qu'il y a une recette?
Alors, j'ai eu la chance une fois de rencontrer un moine orthodoxe à Marsaba, en Israël, qui avait été photographe de stars, et puis qui était devenu moine. Et il m'avait dit, tu sais, c'est pas parce que tu rencontres des gens intelligents que tu es toi-même intelligent. C'est pas parce que tu rencontres des gens célèbres que tu es toi-même célèbre. Et il m'avait raconté ça à l'époque où je voyageais en Terre Sainte, j'avais jamais pensé être journaliste. Et c'est resté gravé profondément. C'est pas parce que je vais rencontrer des gens célèbres que je suis célèbre. Je suis le même. Je suis un homme qui a des questions à poser. J'ai pas fait d'études, je suis un autodidacte, mais j'ai la chance de pas avoir de complexe. J'ai pas le complexe de l'imposteur. Non, j'ai jamais ressenti ça. Et puis j'ai appris très tôt une phrase de Rabelais que j'aime beaucoup. Aussi haut que l'on soit perché, on n'est assis que sur son cul. Et cette phrase-là m'aide beaucoup, beaucoup. Et donc, quand j'ai interviewé...
Vous avez un peu d'humour pour faire ce métier?
Oh oui, quand même, quand même. Vous savez, quand j'ai interviewé Henri de Castres, patron d'AXA, gérant 1 000 milliards de dollars, patron de 100 000 salariés à travers le monde, j'étais dans son grand bureau, il n'est pas venu ici, j'étais dans son grand bureau, j'aurais pu être tout petit dans mes petits souliers, mais en fait non, parce que j'avais un homme en face de moi, et je suis allé chercher l'homme. L'homme. Et ça a toujours été ça. J'ai toujours été chercher l'homme. Quand j'ai eu Alain Juppé ici, là, à ma place, j'ai été chercher l'homme pour comprendre le petit garçon qu'il était et l'homme politique qu'il est devenu. Et puis, vous savez, en chaque homme, en chaque femme, il y a toujours le petit garçon. Et souvent, je sais pas pourquoi, je vois le petit garçon, la petite fille qui est dans l'homme. Et ça m'aide à les voir beaucoup plus simplement. Et je pense qu'ils le sentent. Je suis pas impressionné par les titres, je l'ai jamais été, ni les monseigneurs, ni les... Et aussi, comment dire, quand j'interviewais des gens très intelligents, brillantissimes, quand j'ai interviewé Edgar Morin, Michel Serres, j'ai pas essayé de jouer celui qui connaissait tout de leurs pensées. C'est pas vrai, j'avais pas lu tout Michel Serres ou tout Edgar Morin, j'avais lu un ou deux livres d'eux, c'est tout. Et j'essayais simplement qu'ils m'expliquent, simplement, toujours avec le souci des auditeurs, leurs pensées, ce qu'ils avaient compris de la vie, et ce qui était leur théorie, par exemple. Mais simplement. Ça aussi, je pense que ça m'a aidé quand j'étais face à ces Trinh Xuan Tuan, un des plus grands astrophysiciens. Moi, je connaissais rien, l'astrophysique. Donc, j'avais lu un tout petit peu des passages avec lui. Mais j'avais le souci que les auditeurs qui, comme moi, n'y connaissent rien sur les trous noirs ou sur l'immensité des galaxies ou sur les multivers, que les auditeurs comprennent quelque chose. Et donc, il fallait me mettre au niveau des auditeurs.
Et finalement, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, tous ces invités?
Oh là là, la richesse de la vie, l'incroyable richesse du monde. Oh, là, je vous parle de Trix Antoine, mais je regarde plus les étoiles de la même manière. Oh, je perçois plus notre petite planète Terre, qui est un grain de sable dans l'immensité de ces galaxies de la même manière. Quand j'ai interviewé une spécialiste des araignées au Muséum d'Histoire Naturelle, je vois plus les araignées de la même manière. J'ai été en formation permanente depuis 35 ans. J'ai appris tous les jours, à ouvrir ma curiosité. Et vous savez, plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et donc là, je vais arrêter ce métier qui m'a tellement nourri, tellement apporté, parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de continuer à étudier, j'ai envie de creuser maintenant. Ils m'ont donné le goût. Ils m'ont donné le goût de la philosophie quand j'étais avec André Comte-Sponville. Frédéric Lenoir m'a donné le goût de la culture des religions, encore plus de la science des religions. Et donc là, maintenant, j'ai envie d'approfondir. J'ai envie de creuser l'évolution des sociétés. J'ai envie de creuser et creuser.
Et Thierry, on a un petit peu préparé cet entretien.
Oui.
Et quand je vous ai demandé quels étaient les invités qui vous avaient le plus marqué, oui. Moi, je pensais que vous alliez me sortir des noms célèbres.
Oui.
Et vous m'avez donné... deux prêtres.
Ouais.
Vous pouvez les raconter aux auditeurs.
Et c'est pas parce que je suis sur RCF, hein. Vraiment, ça j'y tiens. J'aurais pu citer, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, mais des hommes qui m'ont bouleversé par leur humanité, ce qui veut dire leur sainteté. C'est le père Sérac.
Alors lui, c'est une personnalité très connue.
Il est connu un peu dans le milieu catholique, mais il n'est pas très très connu. Le père Sérac, un jésuite qui a vécu dans les camps de réfugiés à la frontière du Cambodge, au moment justement de cette triste période des Khmers Rouges. Il était dans les camps en Thaïlande. Il était le seul blanc à rester au moment des bombardements. Après, il s'est occupé des enfants de la rue à Chennai. Je l'ai interviewé à Lyon la première fois, puis après je l'ai interviewé à Chennai, chez lui. Et cet homme-là, il était aimant. Voilà, il vivait l'amour. Il vivait l'amour inconditionnel. Donc je voyais à travers un homme cette expérience spirituelle que j'avais faite de l'amour inconditionnel de Dieu. Et la même chose exprimée par la miséricorde, le pardon, avec un dominicain, le père Philippe Maillard, que j'ai rencontré à Lille, dans les quartiers pauvres de Lille, où il habitait avec les gens du Quart-Monde. Et lui, il était visiteur de prison. Et là, j'ai appris le regard aimant sur les gens blessés par la vie et qui se retrouvent en prison. Et la force du pardon.
Thierry, vous nous l'avez dit, vous êtes passionné par l'Asie. Mmh. Et quand on regarde l'ensemble de vos invités dans Visage, il y a beaucoup de figures de la spiritualité asiatique.
Vous voyez ?
Vous nous avez aussi raconté comment vous avez
retrouvé... aussi des juifs, mais aussi des musulmans.
Sûr, bien sûr.
Non, il n'y a pas que des
bien
asiatiques.
Sûr. Mais ouais. vous nous avez raconté aussi comment vous avez retrouvé le goût de Jésus,
ouais.
Loin là-bas en Asie.
Ouais.
Comment tout ça est mêlé? Et comment votre appétence pour l'Asie, pour la spiritualité asiatique, nourrit votre foi chrétienne?
Alors, je n'irai pas à dire qu'il faut étudier les religions asiatiques, il faut se nourrir de ces religions-là.
Vous...
Moi, c'est mon parcours, ça a été mon parcours. Et donc, j'ai cette appétence-là, j'ai ce goût de l'Asie, je suis reconnaissant, je suis dans la gratitude vis-à-vis de l'Asie, de tout ce que j'ai reçu. Après, on peut très bien être un bon catholique, un bon protestant, en creusant sa propre tradition religieuse. On n'a pas besoin d'aller étudier d'autres religions comme je le fais. Moi, j'ai besoin de ça, c'est en moi. Mais aussi, je crois à cette dimension universelle du souffle de Dieu, on va dire comme ça, j'essaie de trouver des mots dans toutes les traditions religieuses. Voilà. Depuis Nostra Aetate, je ne vais pas faire de la théologie, mais dans l'Église catholique, on reconnaît la présence de l'Esprit-Saint dans toutes les traditions religieuses. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une réalité suprême, une seule, qui est au cœur de toutes les traditions religieuses. Après, il y a des manières différentes de les aborder. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas faire de hiérarchie, je ne veux pas faire un débat théologique, mais si Dieu est. En sachant ce qu'on met sur Dieu, il est partout, en tous, en tout.
Et pour tous.
Et pour tous, bien sûr. Personne n'a la propriété de la vérité.
Et donc, que vous ont appris les spiritualités asiatiques sur Jésus ?
Ah non, sur Jésus, rien.
Rien ?
Rien.
Mais comment est-ce qu'elles ont enrichi votre foi ?
Elles m'ont enrichi alors de manière différente. J'ai découvert la place du corps, par exemple, grâce à l'Inde, au yoga, aux différents yogas. Et la richesse des yogas, j'ai fait une émission avec Isée Tardon-Masquelier ici même sur l'encyclopédie sur les yogas. J'ai appris beaucoup de choses sur la place du corps, mais pas simplement le corps. Ce qu'on appelle bhakti yoga, la dévotion. Donc comment aimer de manière absolue le divin. Donc j'ai reçu sur le détachement, le bouddhisme. Mais là, encore une fois, le bouddhisme bien compris parle merveilleusement du détachement, c'est-à-dire cette liberté intérieure par rapport à nos existences, en les prenant au sérieux, en vivant pleinement cette existence, mais en même temps en étant détaché, en sachant que tout est impermanent, tout est éphémère, tout va disparaître. J'ai appris beaucoup en liberté par rapport à l'existence. Certains vont dire que c'est du fatalisme, moi j'accueille ce qui est, et ce qui est, qu'on ne peut pas changer, on l'accepte, on l'accueille, même si c'est dur. Même quand c'est la perte d'un être cher, c'est dur à dire, mais c'est. Et on continue, et la vie continue.
Vous avez dit le mot liberté.
Oui.
Essayer d'être libre, c'est difficile ?
Bien sûr que c'est difficile. On est tellement programmé, on est tellement formaté, on est tellement conditionné par le lieu où on est né, par la famille dans laquelle on est né, le pays dans lequel on vit, tous les conditionnements que l'on a selon quelle radio on écoute, quel journal on va lire. Et être vraiment libre, c'est l'œuvre d'une vie. Et ça demande une véritable volonté. Il faut vouloir être libre. Et c'est plus complexe qu'on ne l'imagine, beaucoup plus. Parce que ça demande une liberté intellectuelle, mais ça demande une liberté intérieure. Et on est souvent prisonnier du mental, le mental, ses pensées, toutes ces pensées, qui souvent nous empêchent d'être vraiment libres. J'ai beaucoup étudié, interviewé souvent Christophe André sur la méditation. C'est pas un phénomène de mode. On peut se moquer aujourd'hui du développement personnel qui a ses excès. Mais il y a une attention sur le travail du mental grâce aux techniques de bouddhisme, de méditation vipassana notamment. Et pour être vraiment libre, il faut prendre conscience que souvent, ça pense. C'est pas nous qui pensons, ça pense. Faites l'essai de vous arrêter juste une minute sans penser. Et vous verrez à quel point ça pense. Et donc, qui pense ? Et où est la liberté ?
Thierry Lyonnais, on va écouter un deuxième morceau de musique. Et là, vous nous avez apporté...
Alors là, je vous ai apporté quelque chose qui est la rencontre. J'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup les fusions. Et là, c'est un morceau de musique que j'ai découvert en 1993 chez ECM, une grande maison de disques. Ça s'appelle Officium. Il y a un saxophoniste norvégien de jazz qui s'appelle Jan Garbarek, très grand saxophoniste, et qui avait rencontré The Iliad Ensemble, un quatuor vocal anglais qui est dissous depuis 2014, mais qui avait fait un disque magnifique qui s'appelle Officium.
Thierry Lionnet, nous entamons la dernière partie de cette émission Visage, qui est aussi votre dernière émission Visage, donc il y a beaucoup d'émotions. Vous vouliez rendre hommage au reportage. C'est un art, un exercice que vous avez exercé pendant, on l'a dit, presque 30 ans. Pourquoi c'est important le reportage aujourd'hui ?
Parce que c'est aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, pas pour se déplacer. Mais vous savez, quand vous êtes journaliste et que vous êtes derrière votre ordinateur à recevoir des dépêches, on vous parle de ce qui se passe à Gaza en ce moment, on vous parle de ce qui se passe en Afghanistan, en Irak ou même aux États-Unis, ce sont des dépêches. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous voyez les choses autrement. Et j'encourage vraiment, vraiment RCF à continuer à diffuser les reportages. Vous savez, il y en a de moins en moins sur les radios. Parce que ça coûte cher, parce que ça prend du temps. Mais je souhaite vraiment que tous mes confrères qui vont arriver après moi, je leur passe le relais pour dire, faites du reportage. Allez au moins une fois sur le terrain. Parce que vous ne verrez plus le monde de la même manière. Quand vous allez faire un reportage dans un bidonville à Manille, vous allez voir les gens, vous allez les rencontrer. Si vous faites un reportage sur la lutte contre la lèpre, vous allez rencontrer des lépreux dans une léproserie, vous allez être avec eux, vous allez les toucher, j'espère. Vous allez les regarder dans les yeux. Et la vie sera plus la même. Votre métier de journaliste sera plus le même. Et puis, les auditeurs entendent bien la différence. Bien sûr, on peut parler de la lèpre ou de la lutte contre l'ulcère de Buruli derrière un micro dans un studio. Mais quand vous êtes sur place et que c'est un lépreux qui va vous dire comment il a été rejeté par sa famille et qu'on l'entend et qu'on entend les bruits du lieu, on entend les insectes qui sont autour, la vie, c'est autre chose. C'est autre chose. Et donc, moi, les reportages ont continué à me façonner. J'ai fait des dizaines de reportages dans les 5 continents. J'ai vécu des situations incroyables dans les camps avec les Kachins, avec les paysans sans terre au Brésil, avec à Nintana où j'avais l'impression d'être à la préhistoire. Enfin, j'ai vécu des situations incroyables, aussi bien parfois dans des 5 étoiles, dans de nombreux bidonvilles. J'étais quand même beaucoup plus souvent dans des bidonvilles que dans les 5 étoiles. Et donc, ça m'aidait à sentir le pouls du monde. Voilà. C'est pour ça que j'aime le reportage. Et les auditeurs le sentent bien. Quand on monte un bon reportage, quand on les emmène en reportage, certes, on n'a pas l'image, mais si on écrit avec le son, si on écrit avec le bruit, si on écrit avec les ambiances, les musiques, il y a quelque chose qui passe.
Alors vous êtes allé très très loin, jusqu'aux îles Marquises, jusqu'à Wallis et Futuna, on l'a dit. Mais on peut aussi être reporter en bas de chez soi.
Bien sûr, bien sûr. Le reportage, et c'est pour ça que dans Contre-Courant, on mêle les deux. On fait des reportages très lointains et on a fait des reportages à Lyon. On a fait des reportages à Paris, vers la gare. On fait des reportages avec Habitat Humanisme. On fait des reportages...
Thierry,
pas besoin d'aller loin.
Vous allez raccrocher là, dans quelques jours. C'est fini, vous allez rendre votre micro. Comment vous allez faire ?
J'arrête pour ouvrir une autre tranche de vie. Alors, si dans un an ou deux, je suis en manque, je me dis, mais non, quelle bêtise, je peux pas me passer du journalisme, peut-être que je viendrai refrapper la porte de RCF et proposer mes services comme bénévole pour des podcasts ou des reportages. Mais je ne crois pas. On verra. Mais...
Pourquoi vous ne croyez pas ? Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page ?
Oui, ça a été merveilleux. J'ai vécu 35 ans. Il faut savoir arrêter, vous voyez. Je viens d'apprendre que Bouvard va raccrocher à 94 ans. Vous voyez, non, ce n'est pas pour moi. Je respecte, c'est sa vie, c'est son choix. Je ne voudrais pas. Place aux autres aussi pour les reportages. Mais j'ai envie d'ouvrir une nouvelle tranche de vie.
Thierry Lionnet, on l'a dit en début d'émission, on se vous voit. Parce qu'on veut laisser de la place aux auditeurs. Mmh. Alors comment ces auditeurs vous ont accompagné tout au long de ces voyages, tout au long de ces entretiens ?
Ils étaient toujours présents, toujours, toujours. Dans les entretiens que je réalisais ici ou ailleurs, chez les gens qui me recevaient aussi, il y avait toujours dans mon esprit que l'on était trois. Il y avait le tête-à-tête que je vivais, mais il y avait l'auditeur. Et donc, je posais toujours les questions pour que l'auditeur puisse être avec nous. Puisse comprendre. Et surtout quand j'abordais des questions, je pense avec Mathieu Ricard sur le bouddhisme par exemple, donc je connais assez bien le sujet, je posais toujours les questions en pensant aux auditeurs qui ne connaissaient pas la réalité du bouddhisme. Même chose, je travaillais énormément les interviews en amont, J'étais comme pivot, là, comme il disait, il faut des cartouches. Donc j'arrivais, je préparais. Je savais donc beaucoup de choses, mais je l'utilisais pour permettre à mon invité d'expliquer à l'auditeur. Donc j'ai toujours eu ce souci de l'auditeur. Et en reportage sur le terrain, là, je pensais énormément aux auditeurs, notamment aux auditeurs aveugles et handicapés. Quand je faisais de la marche, par exemple, je pensais à tous ceux qui pourraient jamais venir dans ces magnifiques paysages de montagne. Et donc, je les emmenais avec moi dans les descriptions. Les aveugles, j'aimais souvent vraiment décrire pour que les aveugles puissent imaginer ce qu'on vivait. Donc, et puis, j'ai de la gratitude vis-à-vis des auditeurs, là. Pas mal ont entendu parler de mon départ et m'envoient des petits mots pour me remercier et me dire à quel point bon, les émissions les ont aidés parfois à des moments différents de leur vie. Et ça, c'est très touchant. Et donc, merci à tous les auditeurs qui m'envoient un petit mot pour me remercier de ces moments vécus ensemble. Ils étaient avec nous.
Thierry, quatre petites questions avant de terminer cette interview. On vit dans un monde de plus en plus dématérialisé. Et je voulais que tu nous confies un objet qui est important pour toi.
Alors j'essaye d'être détaché. Alors ça ferait rire ma femme, hein, parce que j'ai ramené beaucoup d'objets de voyage, des objets ethnographiques, des objets qui ont vécu, qui ont une âme. Et puis j'ai beaucoup de livres. Mais en fait, j'espère être vraiment, vraiment détaché. En réfléchissant bien, il y en a un qui me relie intimement avec ma période de voyage. C'est un objet très simple. C'est une petite pochette en cuir qui est totalement usé, patiné. La couleur de la pochette, on dirait du cuir, on dirait une peau cuivrée. C'est ce que je mettais sous ma chemise pour mettre mon passeport, mes travel check, le peu d'argent que j'avais. Et c'était collé contre ma peau et je voyageais comme ça, pour pas me faire voler, pour garder ce qu'il y avait de plus précieux contre moi. Et cette pochette, je l'ai ressortie il y a pas longtemps pour la regarder. Elle a en elle la sueur des voyages, le souvenir des voyages. Donc c'est un objet qui n'a aucune valeur si ce n'est purement symbolique.
Thierry, deuxième question. Vous êtes un homme de voyage et j'aimerais bien savoir où sont vos racines.
Alors, mes racines sont dans la région stéphanoise où je suis né. J'aime beaucoup le Pila, le massif du Pila près de chez nous. Donc mes racines géographiques sont là. Mais pour être franc, j'aimerais vraiment, et je crois que mes racines, c'est le ciel. Voilà, c'est le ciel. Parce que je sais que je viens de là.
On est dans un monde très violent, particulièrement violent en ce moment. Vous avez évoqué Gaza tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous tient debout ?
L'émerveillement. Certes, je suis très lucide, je suis l'actu, je vois ce qui se passe en politique intérieure, dans la situation mondiale. Mais la seule chose qui peut nous faire tenir debout, croire encore en la vie, c'est la capacité d'émerveillement sur ce qui est beau. Parce que le beau est autour de nous, partout, partout, tout le temps. Et on nous parle beaucoup de ce qui va mal, de ce qui va très mal. Et c'est très bien, mais n'oublions jamais tout ce qui est beau. Tout ce qui marche bien, tous ces hommes, ces femmes merveilleux qui s'engagent pour que ça aille mieux, pour lutter contre ce qui va mal au niveau écologique, au niveau sociétal. Et moi, c'est ça qui me fait tenir, c'est que je m'émerveille encore sur ce que vivent les gens, sur la beauté du monde.
Alors, ultime question, comment est-ce qu'on cultive la joie puisqu'on est sur RCF ?
Ben, c'est assez proche de ce que je viens de dire, la capacité d'émerveillement, et puis c'est choisir la joie. Parce que on a un mental, je vous l'ai dit, qui peut partir très très vite dans ce qui est négatif. On a un mental reptilien qui fait que le négatif prend très très vite de la place. Dès qu'on parle du futur, on s'angoisse, on s'inquiète. Vous voyez, il faut le remplacer par une pensée positive, une pensée de joie. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut développer la joie. Choisir d'être joyeux. Choisir de regarder ce qui est beau. Choisir de regarder ce qui est beau et bon chez l'autre. Ouais. On est lucide. On est lucide. Il ne faut pas être naïf. On n'est pas perché. On voit ce qui va mal. Mais on choisit la beauté, la bonté, l'amour.
Merci beaucoup Thierry Lyonnais, merci pour votre confiance, merci pour la qualité de vos propos et puis merci aussi pour tous ces portraits, ces milliers de rencontres. On peut les retrouver maintenant sur rcf.fr et puis on va continuer à les écouter à l'antenne. Puis on a envie de vous souhaiter bonne chance et bon vent pour cette nouvelle partie de votre vie.
Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup pour la manière dont vous m'avez accompagné dans cet exercice pas facile d'être de l'autre côté du micro.
À bientôt.
Cette ultime émission Visage de Thierry Lyonnais vous a été présentée exceptionnellement par Stéphanie Gallet. Réalisation technique, Nathan Faure.